Vous écoutez, on lit pour vous.
Le manque de transport collectif freine les moins nantis. Un texte de Marco Fortier, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. Après la crise du logement et la crise du coût de la vie, assistons-nous à une crise de la mobilité? Le manque d'accès aux transports en commun, surtout hors des grands centres, renforce les inégalités sociales et nuit aux chances d'une partie de la population d'accéder à un emploi ou à des soins de santé. Une analyse toute fraîche de l'Observatoire québécois des inégalités conclut que la dépendance à l'auto, qui règne au Québec en raison de l'insuffisance des transports collectifs, peut empêcher les moins nantis de participer à la vie publique. La mobilité, c'est un besoin essentiel qui a un impact sur la qualité de vie des personnes et leur capacité de participer pleinement à la société, résume l'économiste Geoffroy Boucher, auteur de cette étude intitulée « En panne de mobilité, les inégalités en matière de transport au Québec ». L'auteur a couplé des données de Statistique Canada avec l'indice de défavorisation matérielle de l'Institut national de santé publique du Québec pour tirer des conclusions étonnantes en matière de mobilité. Par exemple, 21% de la population des deux premiers quintiles de revenus, les 40% les plus pauvres, utilisent le transport en commun pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail dans la région métropolitaine de Montréal. Hors des grands centres urbains, cette proportion fond à 1%. Ce n'est pas étonnant, dans la mesure où la vaste majorité, 83%, des résidents des villes habitent à moins de 500 mètres d'un arrêt de transport en commun. En milieu rural, cette proportion chute à 14%. Hors des grands centres, les services de transport collectif sont généralement insuffisants pour permettre aux moins nantis d'aller travailler en bus. Des voitures coûteuses. Cette dépendance à l'automobile entraîne des dépenses très élevées pour les personnes ayant des revenus modestes, souligne Geoffroy Boucher. Les coûts d'achat, d'entretien d'assurance et d'immatriculation d'une voiture sont évalués à 9 500 $ par année, rappelle-t-il. Il s'agit d'un fardeau extrêmement lourd pour les moins nantis. Le poids financier de posséder une voiture est tellement important que le coût de la vie est plus élevé dans certaines régions qu'à Montréal, malgré la crise du logement qui a fait exploser les loyers dans la métropole, remarque l'économiste, en citant une récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. La mobilité est devenue le troisième poste budgétaire en importance des ménages au Québec, après le logement et l'alimentation. Les 20% de personnes les moins nanties consacrent 15,6% de leurs revenus disponibles au transport, souligne Geoffroy Boucher. L'insuffisance des transports en commun hors des grands centres donne des maux de tête à bien des nouveaux arrivants qui se rendent compte, une fois établis en région, du manque de solutions de rechange à la voiture. Certains immigrants n'ont pas de permis de conduire ou n'ont pas les moyens de posséder une auto. L'accès aux infrastructures de transport peut avoir une incidence importante sur la durée des déplacements vers le travail, note aussi l'économiste. Sans surprise, la proportion de travailleurs ayant une durée de navettage de plus de 45 minutes est nettement plus élevée chez les personnes immigrantes, 19,6%, et parmi les minorités visibles, 21%, que dans la population générale, 13,9%. inégalité en mobilité. L'étude observe de plus une distribution inégale des lieux d'emploi, des établissements de santé et des espaces verts. Par exemple, à peine 7 % des zones fortement défavorisées disposent d'au moins un parc, comparativement à 12 % dans les zones les plus favorisées. De même, les établissements de santé sont près de 4 fois plus nombreux dans les zones très favorisées que dans celles qui sont très défavorisées, 40 % contre 11 %. L'accès à l'emploi est aussi inégal. 65 % des zones très favorisées comptent au moins un lieu d'emploi, contre seulement 50 % des zones très défavorisées. L'auteur de l'analyse insiste sur l'importance d'investir dans les transports collectifs pour le bien commun. Ces constats soulignent l'importance d'élaborer des politiques publiques en matière de transport qui soient sensibles aux inégalités sociales et territoriales. C'était « Le manque de transport collectif freine les moins nantis », un texte de Marco Fortier, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.
Sécheresse aux États-Unis. Trump convoite le robinet canadien. Un texte de Frédéric Lapointe et Mira Sawires, paru le 6 mai 2025 dans Pivot. Nos voisins du Sud s'intéressent à notre eau depuis longtemps. Plusieurs traités entre le Canada et les États-Unis ont déjà été mis en place pour permettre une gestion des eaux à la frontière des deux pays. Mais aujourd'hui, Donald Trump en veut davantage pour répondre à la sécheresse dans certains États et à la demande grandissante des entreprises. Citation : Vous avez des millions de litres d'eau qui se déversent depuis le nord avec les couches de neige, et ils ont essentiellement un très grand robinet. Fin de citation. Voilà les mots employés l'an dernier par le président des États-Unis, Donald Trump, qui convoite l'eau canadienne. La Californie subissant toujours de fortes sécheresses, Trump s'intéresse particulièrement à l'eau de la Colombie-Britannique. Citation : Trump doit s'assurer de l'approvisionnement de l'eau pour renforcer la sécurité nationale des États-Unis. Fin de citation, explique Gilles Vandal, professeur à l'Université de Sherbrooke et spécialiste en histoire américaine. Citation : La sécurité nationale, ça rejoint les intérêts nationaux d'un pays. C'est souvent ça qui cause des guerres commerciales, froides ou, dans le pire des cas, des conflits armés. Fin de citation. Quel avenir pour l'eau canadienne? Les discussions sur le traité du fleuve Columbia ont été ravivées par le nouveau président américain dans la foulée des tarifs imposés au Canada. Ce traité entre le Canada et les États-Unis, entré en vigueur en 1964, vise à contrôler d'éventuelles inondations et à produire de l'énergie hydroélectrique grâce à la construction de 4 grands barrages, 3 au Canada, les barrages Kinleyside, Duncan et Mica, et un aux États-Unis, le barrage Libby. L'énergie produite est exploitée par BC Hydro, qui distribue de l'électricité à 95 % de la population de la Colombie-Britannique. Comme le complexe de barrages sur la rivière permet aussi d'optimiser la production d'électricité aux États-Unis, ceux-ci s'engagent à retourner au Canada la moitié de la production supplémentaire réalisée de leur côté pour une valeur de 150 à 250 millions de dollars par année. Lors de l'inauguration du traité, le premier ministre de la Colombie-Britannique à l'époque, W.A.C. Bennett, avait un agenda clair en tête, explique John Wagner, professeur d'anthropologie environnementale à l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan. Citation : Son approche était « Disons oui à l'Amérique. Vous voulez que nous construisions des barrages pour augmenter ce que vous produisez chez vous? Alors, payez-nous et nous le ferons. » Fin de citation, résume le professeur. De plus, en 1948, de fortes inondations avaient dévasté plusieurs villes le long du fleuve, notamment Vanport City, à l'époque la deuxième plus grande ville d'Oregon. C'est pourquoi les barrages ont été construits afin d'éviter ces ravages. La cessation du traité a été établie au plus tôt en 2024. Toutefois, un préavis de 10 ans est nécessaire avant de cesser le traité. Maintenant que le Canada peut demander l'arrêt du traité depuis un an déjà, cela place les États-Unis, citation, dans une position très vulnérable en cas d'inondation, fin de citation, selon John Wagner. Affair Mondial Canada a débuté en 2018 un processus officiel de négociation avec les États-Unis en vue de renouveler le traité. En 2024, le président Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau ont affirmé être parvenus à une entente de principe sur la modernisation et le renouvellement du traité. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, a par ailleurs souligné en novembre dernier l'importance de finaliser un accord clair entre les deux pays. Les négociations ont cependant été suspendues par les États-Unis en mars 2025. John Wagner explique que depuis la ratification du traité, les relations entre les deux pays ont été relativement amicales, malgré les vulnérabilités auxquelles font respectivement face les États-Unis et le Canada. Il est d'avis que la clé pour un bon entretien du traité est un lien durable entre les deux pays. Face aux nouveaux tarifs douaniers, des Britanno-Colombiens et Colombiennes suggèrent de riposter aux menaces américaines en mettant fin à ce traité. Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques et responsable du traité, a affirmé en février avoir reçu de nombreuses propositions visant à suspendre l'approvisionnement en électricité et en eau vers les États-Unis. C'est cependant une voie qu'il n'envisage pas. Citation, « Quitter unilatéralement le traité n'aurait que peu d'effet sur le différend actuel. » Fin de citation. À plusieurs reprises récemment et depuis son premier mandat, le président Trump a aussi signifié son souhait de rediriger davantage d'eau depuis le nord vers des régions plus arides, comme la Californie, le Midwest ou encore le Texas, notamment pour des fins agricoles. Le ministre Adrian Dix, quant à lui, a affirmé que, citation, « cette idée selon laquelle l'eau de la rivière Columbia serait utilisée à El Paso ou autre part » n'est tout simplement pas exact. » Fin de citation. John Wagner assure que rien ne présage que le Canada accepterait au pied de la lettre les conditions de Trump, ni que nous acheminerions plus d'eau que nécessaire à nos voisins du Sud. Citation. « Nous sommes le pays en amont. Nous n'aurions donc aucune raison de donner plus d'eau que ce que nous permettons déjà avec le traité actuel. » Fin de citation. Citation. Le Canada est actuellement un bon garçon qui fournit de l'eau, mais qui peut très bien fermer le grand robinet vers le fleuve Columbia à tout moment. Fin de citation, dit Gilles Vandal. Vous écoutez, sécheresse aux États-Unis, Trump convoite le robinet canadien? Un texte de Frédéric Lapointe et Mira Sawires, paru le 6 mai 2025 dans Pivot. L'eau canadienne convoitée, historique de projets avortés. Il existe un autre accord entre les États-Unis et le Canada, le traité des eaux limitrophes, qui détermine depuis 1909 la protection, l'utilisation et le partage de l'eau le long de la frontière. C'est que l'idée d'exporter l'eau du Canada vers les États-Unis ne date pas d'hier. Dans les années 1950, le corps du génie de l'armée américaine envisageait une vaste réorganisation des ressources hydriques nord-américaines à travers un projet de grande envergure, la North American Water and Power Alliance, NAWPA. Ce plan prévoyait le transfert de quelque 300 milliards de mètres cubes d'eau en provenance de l'Alaska, du Yukon et de la Colombie-Britannique, avec un budget estimé à 100 milliards de dollars canadiens en 1964, soit près $1 trillion en 2025. Une somme colossale pour une initiative qui, malgré son ampleur, n'a jamais été concrétisée. En juin 1999, le ministère des Relations internationales du Québec publiait un rapport sur les enjeux internationaux liés à l'eau et présentait des projets qui, comme celui de la Nawapa, ont tous avorté. En effet, dans les années 1960, un premier projet proposait de détourner les rivières Mackenzie, Yukon, Athabasca, Peace et Fraser afin d'alimenter l'Ouest américain. Un autre projet, le Canal Grand, envisageait de transporter l'eau de la baie James jusqu'au bassin des Grands Lacs pour approvisionner le Midwest et le Sud-Ouest des États-Unis via un réseau de pipelines. De son côté, le North American Waters Master Plan, NAWAMP, prévoyait d'acheminer l'eau du lac Ontario directement vers la ville de New York. Dans les années 1980, alors que la Californie traversait une période de sécheresse, la Colombie-Britannique a accordé 6 permis d'exportation d'eau douce à des compagnies privées américaines. Toutefois, sous la pression de l'opinion publique, ces autorisations ont été révoquées dans les années 1990, entraînant une poursuite judiciaire contre le Canada par la société américaine Sunbelt Water. Finalement, aucune réclamation valable n'a été déposée et le procès n'a jamais eu lieu. À la défense des eaux canadiennes. Face à la montée des inquiétudes, le gouvernement fédéral a pris des mesures. En 1999, le ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a présenté un projet de loi visant à modifier le traité des eaux limitrophes. Les élections fédérales de 2000 ont cependant interrompu les discussions. La loi en ce sens a finalement été adoptée 2 ans plus tard. Celle-ci interdit le captage à grande échelle des eaux canadiennes, notamment celle des Grands Lacs. En effet, détourner l'eau des Grands Lacs vers l'Ouest américain pose un problème environnemental majeur. Les voies maritimes pourraient ne plus fonctionner correctement. Citation : Si cette eau des Grands Lacs n'arrive pas au Québec, par exemple, le niveau du fleuve Saint-Laurent sera beaucoup plus bas, ce qui compliquera le passage des navires. Fin de citation, affirme Gilles Vandal. Faire des canaux pour contrôler l'eau ou la dévier n'est pas une solution durable, expose-t-il aussi. Citation : Même si le Canada a 20% des ressources d'eau potable dans le monde, si on modifie l'écosystème, on peut avoir des résultats inattendus. Les conséquences environnementales vont être très importantes. Fin de citation. Ces discussions s'inscrivent alors dans un contexte où la demande en eau douce ne cesse d'augmenter aux États-Unis. Le rapport publié en 1999 par le ministère des Relations internationales du Québec évaluait qu'entre 1980 et 2000, la consommation d'eau aurait bondi de 41,5% en Californie, de 42% au Texas, de 58,2% en Floride et de 70% en Arizona. Lors des négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, dans les années 1980-1990, le Canada a refusé d'aborder la question de l'eau dans les accords commerciaux. En 2001, le président George W. Bush a tenté de rouvrir le débat en entamant des discussions avec Ottawa afin d'inclure l'eau dans les échanges dans l'espoir d'atténuer les pénuries. Cela n'a cependant pas fonctionné. Le dossier a refait surface en 2011 lorsque l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, a estimé qu'un débat national sur le partage de l'eau était nécessaire. 2 ans plus tard, en 2013, le Parlement canadien a adopté la loi sur la protection des eaux transfrontalières, interdisant ainsi l'exportation de l'eau, notamment vers les États-Unis. Des ambitions réalistes? Actuellement, le gouvernement canadien estime que, citation, les projets de grande envergure qui visent à transporter de l'eau à des fins d'irrigation sont beaucoup trop coûteux, en plus d'être inacceptables du point de vue environnemental et social pour être réalisables. Fin de citation. À l'échelle du Québec, Frédéric Lasserre, professeur de géographie à l'Université Laval, explique dans un article de 2017 que l'exportation de l'eau québécoise causerait non seulement de grands impacts sur l'environnement, mais aussi ne serait pas rentable au niveau économique. De plus, il expliquait déjà dans un autre texte en 2009 que les projets passés n'avaient donné aucun fruit puisqu'ils n'étaient ni portés ni encouragés par les populations locales. En effet, pourquoi venir en aide à un pays qui ne sait tout simplement pas gérer ses propres ressources, s'interroge le professeur en entrevue avec Pivot. Citation. Autrement dit, qu'ils fassent leur devoir d'abord, et ensuite, on pourra voir si on peut envisager de vendre ou d'exporter une partie de notre eau. Fin de citation, dit Frédéric Lasserre. Il mentionne que dans les faits, les acteurs principaux dans l'élaboration de projets de transfert massif d'eau étaient des groupes d'ingénieurs, sans qu'il y ait pour autant des conversations intergouvernementales sérieuses. Par ailleurs, l'opinion populaire s'est détériorée à partir des années 1980, reléguant les projets de transfert à quelques brèves discussions sans impact tangible. Reste que la présence d'un Donald Trump nouvellement réélu se fait ressentir. Cela dit, Frédéric Lasserre précise que le statu quo au niveau des transferts d'eau demeurera malgré les incertitudes, notamment en raison des enjeux financiers. Citation. Si Trump veut faire plaisir à une partie de l'opinion publique, une partie de sa base électorale, oui, il peut essayer de faire pression sur le Canada pour aller de l'avant avec de tels projets. Mais à ce moment-là, ce sera une rationalité purement politique et pas économique. Fin de citation, dit-il. C'était « Sécheresse aux États-Unis, Trump convoite le robinet canadien ?» Un texte de Frédéric Lapointe et Mira Sawires, paru le 6 mai 2025 dans Pivot.
Une dernière fouille avant les pelles mécaniques. Un texte de Tristan Péloquin, paru le 8 juin 2025 dans la presse. Armée de truelles et de patience, une petite équipe d'archéologues s'affaire à exhumer des artefacts des premières foires des fourrures dans une ruelle du Vieux-Montréal. Une rare occasion d'explorer ces vestiges de la Nouvelle-France avant qu'ils ne soient emportés par les pelles mécaniques. Ici, on a retrouvé quelque chose de rare, la garde d'une courte épée ou d'un poignard. C'est un objet assez raffiné, voire luxueux, qui appartenait possiblement à un bourgeois gentilhomme ou à un aristocrate qui la portait pour pavaner, explique l'archéologue Simon Santerre, chargé de projet pour la firme Ethnoscope, qui mène les fouilles pour la ville de Montréal. La ruelle minuscule où s'affaire son équipe s'appelle Chaguamigon. Marie-Claude Morin, archéologue à la direction de l'urbanisme de la ville de Montréal, nous dit « C'est une des seules ruelles qui ont été préservées des nouvelles constructions. Il y a tout près de 2 mètres d'accumulation d'histoire dans les couches de sédiments. » Dans les prochaines semaines, la ruelle sera entièrement excavée et remise à neuf dans le cadre d'un projet de réfection de la rue Saint-Paul, la plus ancienne artère commerciale de Montréal. Avant d'être aménagée par les Sulpiciens en 1673, la rue Saint-Paul était un sentier déjà fréquenté par des Autochtones il y a près de 4000 ans, indiquent des données archéologiques. À la fin du XVIIe siècle, des centaines de commerçants et d'Autochtones se rencontraient pendant l'été dans 3 ruelles près de l'ancienne place royale, dont la ruelle Chaguamigon, pour faire le commerce de la fourrure. Du bois extrêmement bien préservé trouvé dans la glaise témoigne de la présence d'anciens étals de bois qui étaient installés pour cette grande foire. C'étaient des petites boutiques volantes, comme un marché de Noël, illustre Madame Morin. Il pouvait y avoir jusqu'à 800 Autochtones qui venaient troquer et traiter avec les commerçants, ajoute-t-elle. Les Autochtones campaient de l'autre côté du fleuve et venaient chaque matin voir les arrivages de marchandises. Ils échangeaient de tout. On a trouvé beaucoup de couteaux pliants et des couteaux croches qui pouvaient servir à travailler le bois dans les couches et qu'ils échangeaient contre des fourrures, indique Simon Santerre. Son équipe a trouvé près de la place royale, à quelques mètres de la ruelle, plusieurs centaines de perles de verre, dont les Autochtones étaient très friands. Les Européens arrivaient avec des tonneaux chargés de perles qu'ils pouvaient échanger facilement. Pour les Autochtones, c'était impressionnant d'avoir accès à une telle quantité de perles. Les archéologues ont aussi découvert des retailles de chaudrons de cuivre que les Autochtones découpaient pour se faire des parures clinquantes. « Ça, c'est un calumet que les gens portaient au cou, » montre M. Santerre. On ne l'a pas vidé parce qu'il y avait peut-être encore un peu de tabac dedans qu'on pourrait éventuellement faire analyser en laboratoire, si c'est possible, pour voir de quelle variété il s'agissait et d'où il venait. Un calumet complet a été trouvé sous la ruelle. Les calumets étaient fabriqués la plupart du temps par les Canadiens et leur forme ainsi que leur décoration étaient inspirées de la culture autochtone, avec des ponctuations sur les bords de la tête de pipe, explique M. Santerre. Plus résistants que les pipes en argile blanche, les calumets étaient adaptés à la vie des coureurs de bois, mais aussi à celle des agriculteurs et autres travailleurs qui pouvaient en transporter un sans craindre de l'abîmer. Beaucoup des objets exhumés témoignent d'un transfert de connaissances et de technologies, mais aussi de cultures mixtes, constate Marie-Claude Morin. Ce sont dans bien des cas des objets fabriqués par des Européens, mais qui s'inspirent du contact avec les Autochtones. Dans les prochains jours, le chantier archéologique laissera place à de l'équipement lourd qui viendra excaver la ruelle pour y installer de nouveaux équipements de canalisation ainsi qu'une nouvelle chaussée de granit. À genoux au sol, la petite équipe d'archéologues est dans une course contre la montre pour documenter pour la dernière fois ce pan de l'histoire qui s'apprête à disparaître pour de bon sous la chaussée. Les objets trouvés seront analysés puis conservés dans la collection archéologique municipale de Montréal. Un rapport public sera ensuite rédigé et distribué. C'est exceptionnel comme contexte et on ne reviendra pas. Alors, on va prendre notre temps, affirme Mme Morin. D'autres trouvailles rue Saint-Paul. Lancées en 2015, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul ont permis aux archéologues de fouiller plusieurs sites qui ont marqué l'histoire de cette artère commerciale. C'était une dernière fouille avant les pelles mécaniques, un texte de Tristan Péloquin paru le 8 juin 2025 dans La Presse.